L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, di meno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Abar patriarca.
Masamanaye, aumaye.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actuel, votre émission féministe sur Radio Larzac avec le planning familial de l'Aveyron. Aujourd'hui on est très nombreuses dans ce studio et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, donc merci et bienvenue à tout le monde, Chloé, Charlotte, Magali, Maggie, Manon, Estelle et Cindy, bonjour à toutes.
Oui, bonjour Sophia, moi c'est Maggie.
Bonjour
Sophia.
Bonjour.
Oui, nous sommes nombreuses aujourd'hui sur le plateau des bénévoles adhérentes actives du planning familial de Millau. Merci à toutes d'être là.
Et oui, et si on est si nombreuses aujourd'hui, c'est parce qu'on veut vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et d'une expérience aussi que nous avons vécue tout ensemble au planning familial de Millau. Donc ce sont des ateliers d'autogynécologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Eh bien, on va le découvrir ensemble et on va aussi interroger Nina Faure, réalisatrice féministe et autrice d'un court-métrage Anatomie Autonomie sur l'autogynécologie, mais aussi de notre corps nous-mêmes. Et puis, on va aussi vous faire un retour sur ces ateliers qu'on a vécu ensemble. On a aussi des chroniques et aussi une revue de presse. Et avant de commencer, on salue aussi les deux Nico aujourd'hui à la technique. Salut à vous deux.
Salut tout le monde.
Salut.
Bonjour.
Eh bien, je pense qu'on peut commencer.
Oui, c'est parti.
Allons-y.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
I worry the sun.
Alors aujourd'hui, la revue de presse, elle nous a été envoyée par Nicole. Salut Nicole d'ailleurs, si tu nous écoutes.
Oui, petit clin d'œil à Nicole, merci.
Donc Nicole est adhérente toujours au planning familial de Millau, même si elle a déménagé aujourd'hui. Elle a participé avec nous aux premiers ateliers d'autogynéco et aujourd'hui, elle nous a envoyé une synthèse de deux articles qui sont parus récemment sur Mediapart sur les fuites urinaires et les bandelettes aussi urinaires.
Bonjour, c'est Nicole, en différé de la Montagne Noire. Je vous présente la synthèse que j'ai faite de deux articles parus dans Mediapart début 2024. De nombreuses femmes souffrent de fuites urinaires, ça concerne près de la moitié de celles-ci, 45% selon les urologues. La question est généralement peu évoquée, un tabou qui freine la prévention, le dépistage et la recherche de solutions. Le périnée, fragilisé par la pratique du sport intensif, l'accouchement, l'âge, un métier avec port de charge lourde, risque de perdre son tonus, le plus souvent lors d'un effort, parfois minime comme éternuement ou toux, des urines peuvent s'échapper. Le sujet est rarement abordé et devrait l'être systématiquement par les professionnels de santé comme gynécologues, médecins, généralistes, kinés. Prévention et rééducation peuvent donner de bons résultats. Une solution chirurgicale existe, elle peut présenter de graves conséquences. Cela consiste en l'implantation de bandelettes sous-urétrales en polypropylène placées sous la vessie. Ces bandelettes adhèrent très vite aux chairs de la zone pelvienne, complexe et fragile chez la femme car elle abrite la vessie, l'utérus, l'intestin et le réseau de muscles du périnée. À l'étranger, ces interventions sont réservées aux incontinences majeures, celles provoquant une gêne constante qui perturbe la vie sociale et professionnelle. La balance entre les bénéfices et les risques doit être sérieusement analysée. En France, en 2021, 17 000 femmes ont reçu cette implantation, principalement pour des fuites urinaires à l'effort. mais des centaines de femmes souffrent de graves complications. Près de 800 Françaises ne cessent de témoigner de ces complications, de leur gravité. Pourtant, un encadrement des pratiques a été édicté dès 2019 par le ministère de la Santé, mais il n'est pas respecté. Aux États-Unis, des recommandations très strictes ont été émises, alertant sur les nombreuses complications. Je cite « douleurs, érosion du vagin, infections et problèmes urinaires, incontinence, douleurs pendant les rapports sexuels, saignements, perforation d'organes, problèmes neuromusculaires », fermez les guillemets. 100 000 actions en justice ont visé les fabricants de bandelettes. Elles ont révélé que ces implants n'ont jamais été testés à grande échelle et des condamnations ont été prononcées. Concernant cette chirurgie, des moratoires ont été décrétés en Irlande, Écosse et en Australie, où le ministre de la Santé a officiellement présenté des excuses, je cite, aux nombreuses femmes qui ont souffert des conséquences effroyables des bandelettes. En France, 78 femmes ont porté plainte contre X pour violence volontaire et tromperie. Et des nouvelles plaintes ne cessent d'arriver, explique leur avocate Hélène Platte. Ces plaintes visent les laboratoires, pointant notamment le manque de données cliniques avant leur mise sur le marché et d'informations sur les complications. Une enquête a été ouverte au pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris. La plainte française vise aussi les médecins qui n'ont pas respecté les arrêtés pris depuis 2020. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a renforcé les contrôles des bandelettes auprès des 11 laboratoires producteurs et constaté que chez 9 d'entre eux, des écarts majeurs ont été relevés. Mais une période de transition leur a été accordée jusqu'en 2027 pour se mettre en conformité. Aux femmes qui font part de leurs troubles et douleurs, les médecins ne savent que répondre. C'est dans la tête. Et elles ne savent pas gérer les complications. Antidouleurs, antidépresseurs sont souvent les seules réponses. Aucun lien avec la bandelette, leur rétorque-t-on. Un circuit a été organisé pour celles qui le peuvent. Le coût est de 22 000 euros afin de faire pratiquer une ablation de la bandelette aux États-Unis. Le docteur Véronique Kiss en a fait sa spécialité. 36 Françaises en auraient bénéficié. Celles qui ont témoigné gardent, malgré tout, des séquelles. En France, de nouvelles règles ont été édictées, mises aux normes des notices, information complète des patientes, tutorat entre chirurgiens, projet de centre labellisé, mais peine à être mise en pratique. Voici ma petite conclusion. Le tableau peut paraître désespérant, mais ne restez pas seul, pas de honte, osez en parler. Osez vous parler, vous associer, la bataille est engagée. Dans un film, si un tel film était tourné, des activistes lanceraient des capotes remplies de pipi sur le ministère de la Santé. À bientôt.
À bientôt Nicole, merci pour ta participation de loin de cette émission. On continue de parler d'autogynécologie sur les ondes de Radio Larzac et nous avons avec nous Nina Faure au téléphone. Salut Nina.
Salut.
Oui, tu nous entends ?
Oui, très bien.
Super.
Merci d'être avec nous et avant de te poser quelques questions justement sur l'autogynéco, eh bien Chloé, tu nous as préparé une chronique sur l'histoire de la gynécologie et aussi de l'autogynéco, donc merci.
Alors en effet, pour parler de l'autogynécologie, il faut remonter aux origines de la gynécologie elle-même. Ce mot vient du grec ancien et signifie littéralement « étude ou science de la femme ». Mais malgré ce nom, pendant des siècles, c'était un domaine dominé par les hommes, plus axé sur le contrôle du corps féminin que sur sa compréhension. Pourtant, ça partait plutôt bien. Dans les civilisations de l'Antiquité, les sages-femmes étaient des figures essentielles à la société. Elles soutenaient les femmes avant, pendant et après la grossesse, ainsi que lors des accouchements et des avortements. Ces savoirs étaient transmis entre praticiennes de génération en génération. On en retrouve une probable compilation dans le tout premier traité de gynécologie de l'histoire, au deuxième siècle après Jésus-Christ, rédigé par un médecin romain, Soranos d'Éphèse, et intitulé « Accrochez-vous bien, maladie des femmes ». C'est l'ouvrage incontournable sur le sujet jusqu'à la Renaissance. Il contient notamment la première description détaillée de la vulve et mentionne même le clitoris, en tout cas sa partie externe.
Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite et pourquoi cette tradition s'est-elle perdue ?
Au Moyen-Âge, des femmes pouvaient pratiquer la médecine, comme par exemple Trotula de Salerne, une médecin érudite italienne du XIe siècle, souvent créditée comme l'une des premières gynécologues. À cette époque, la quasi-totalité des femmes ne lisent pas et accèdent donc au savoir et aux soins par le biais des guérisseuses et des sages-femmes. Mais l'influence de la religion a restreint les libertés et la chasse aux sorcières a effacé des siècles de savoir féminin, reléguant les connaissances médicales des femmes au rang de superstition. Cette perte de la connaissance signe donc la perte du pouvoir que les femmes avaient sur leur corps en tant que soignées ou soignantes. À partir de ce moment-là et pendant des siècles, c'est la médecine et la rigueur universitaire, validées par l'Église et l'État, qui se placent en unique décentrice de la vérité. L'ultra-médicalisation, notamment à partir du XXe siècle, sert à un système industrialisé de la naissance qui place le corps des femmes en sorte d'objet dont on pourrait disposer pour servir les intérêts de l'État. Ce sujet résonne, non ? Hashtag réarmement démographique.
En effet, c'est tristement d'actualité. En tout cas, il faut attendre les années 70 et aux États-Unis pour que cela évolue.
En effet, à cette époque, une onde de changement se répand dans le paysage social, politique et médical. À Boston, un groupe de femmes se réunissent pour un atelier autour du thème « Women and their bodies », les femmes et leur corps. Les discussions tournent autour de la sexualité, encore très tabou, l'avortement, encore illégal, ou leur méfiance envers le système médical. Au bout d'un an de réunion, de collecte d'informations sur la santé féminine et de confrontation avec les données médicales, le Boston Women's Health Book Collective publie en 1971 « Our Body, Ourselves », livre fondamental du mouvement pour l'autogynécologie. La première année, plus de 250 000 copies sont vendues. 50 ans après, c'est près de 4 millions. Le livre est traduit en 31 langues, dont le français en 1977, et régulièrement réactualisé. Parallèlement, à Chicago, le Jane Collective est créé. C'est un groupe qui conseille et accompagne les femmes dans des procédures d'avortement. Toutes les membres du groupe répondent au nom de Jane pour conserver l'anonymat. En accompagnant les femmes au moment de la procédure, les Jane demandent aux avorteurs-avorteuses de les former au geste. Elles pratiquent par la suite jusqu'à 11 000 avortements entre 1969 et 1973, en baissant le tarif, voire en le proposant gratuitement pour les femmes les plus pauvres ou les femmes racisées. En 1973, l'avortement est dépénalisé aux États-Unis. Cette victoire renforce les revendications des femmes en matière de choix reproductifs et contribue à développer le mouvement de l'autogynécologie. Dans les années qui suivent, des centres de santé autogérés émergent, offrant aux femmes des alternatives aux soins médicaux traditionnels.
Et alors en France, comment ça se passe ?
Et en France, c'est en 1973 que le premier collectif naît à Paris sous le nom Les Impatientes, comptant une dizaine de femmes. Avec l'avènement d'Internet dans les années 90 et 2000, l'autogynécologie a trouvé un nouvel espace pour prospérer. Des blogs, des forums en ligne et des ressources numériques ont permis aux femmes du monde entier de partager des informations, de trouver du soutien et de s'autonomiser dans le domaine de la santé intime. Aujourd'hui, des femmes se regroupent dans toute la France, comme à Millau, pour s'auto-explorer et la réécriture actualisée de notre corps nous-mêmes, publiée en 2020, dont Nina Faure est l'une des autrices, représente, dans un monde où le contrôle et la stigmatisation des corps féminins persistent, un pas de plus vers l'autonomie et l'empouvoirment des femmes dans le domaine de la santé.
Merci Chloé.
Merci Chloé.
Merci.
Nina, justement, nous avons quelques questions à te poser.
Avec plaisir.
Super. Est-ce que tu as des choses à ajouter justement par rapport à ce qui a été dit de l'histoire d'autogynécologie ?
Non, c'est hyper intéressant. Voilà, je suis contente à la fois que vous en parliez puis qu'on s'inscrive dans cette histoire et qu'on continue à la faire vivre.
Oui. Et toi, quelle est ton expérience justement dans l'autogynécologie ?
Je pense que c'est à la fois une expérience comme beaucoup, c'est-à-dire que l'autogynécologie commence par la mauvaise prise en charge, voire la maltraitance en gynécologie, parce que c'est un espace où on a beaucoup besoin d'attention, de soins. C'est souvent les endroits où on nous envoie dès qu'on commence à traverser la puberté ou à avoir des relations sexuelles. Et on a beaucoup de besoins et de questions à ce moment-là. Et les médecins sont pas du tout formés ni à cet accueil-là, ni à prendre du temps pour y répondre, ce qui crée beaucoup d'incompréhension, mais aussi de violence. Moi, je me rappelle que le premier entretien chez la gynécologue, elle m'avait regardée en disant « mais bravo, c'est très propre ». Et en fait, en soi, c'est une forme de... Enfin, cette phrase balancée comme ça, qui est un jugement, qui pose 10 000 autres questions de qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est quoi quand c'est sale et sans rien d'autre. Enfin, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui est très... Un regard extérieur sur le corps qui insécurise beaucoup, alors que c'est censé être une remarque positive. Et je ne cite que ça comme exemple parmi voilà, les dizaines que j'ai pu récolter au cours de mes travaux et de nos travaux. Donc, je pense que voilà, l'histoire en gynécologie, elle commence. L'autogynécologie, c'est le moment où on se réapproprie cette pratique dont on est désapproprié dès qu'on franchit le pas du cabinet du médecin. Heureusement, il y a des pratiques qui permettent de faire différemment et qui sont de plus en plus en place aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pu par la suite à la fois écrire ce livre et puis participer à des ateliers d'autogynécologie qui ont révolutionné le rapport à mon propre corps. Donc, c'est très important.
Justement, tu as parlé du livre « Notre corps, nous-mêmes », mais il y a aussi un court-métrage que tu as tourné, « Anatomie, autonomie ». Est-ce que tu pourrais nous en parler ?
Oui, c'est un court-métrage dans un atelier d'auto-exploration. C'est comme ça que la personne l'appelle, ce qui permet d'élargir même la question d'autogynécologie, puisqu'il s'agit d'observer nos sexes dans leur pluralité, sans forcément y attribuer un genre. Et donc des ateliers d'auto-exploration plutôt orientés pour les personnes ayant des vulves, quoique certains ateliers sont vraiment sur des mixités beaucoup plus larges et qui permettent de voilà se regarder en ayant à la fois un apprentissage de connaissances anatomiques, une approche à la fois ben, des fois un peu plus distante avec des objets tels que une chatte en mousse, un objet qui permet de déscratcher un peu toutes les parties de notre anatomie et d'en avoir une vision extérieure et en même temps voilà de l'auto-observation pour se rendre compte à quel point c'est ce geste aussi simple que de regarder son sexe dans une glace est encore et pour la plupart des gens et la plupart des personnes ayant des vulves quelque chose d'extrêmement transgressif basé sur des angoisses sociales de que c'est forcément pas beau ou que nous c'est pas beau ou que c'est la honte ou que et le fait d'avoir des occasions de développer la connaissance sur cette partie du corps là c'est très rare et très précieux et aussi ça change beaucoup le rapport à ça crée un autre point de vue sur nous-mêmes et la façon dont jusqu'à présent en fait on nous a éloigné de cette partie de nous en fait. Enfin, je me rappelle dans un entretien une femme qui disait ça c'est sa partie à lui. Et ce niveau d'aliénation là de nos sexes qui ne nous appartiennent pas ça fait totalement continuité avec ce dont on parle aujourd'hui effectivement avec le réarmement démographique, c'est nos corps au service d'une organisation sociale et pas nos corps à nous, nos corps nous-mêmes quoi. Voilà vraiment. Donc c'est des projets politiques totalement différents.
Tout à fait, et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à l'aliénation, justement de cette partie de nos corps. Et donc, j'imagine qu'aujourd'hui, pour toi, cela prend une place importante dans ta lutte féministe, ou en tout cas, quelle place prend l'autogynécologie pour toi dans cette lutte ?
Elle fait partie d'un continuum, en fait, qui va de la réappropriation du corps, effectivement, du corps dans la gynécologie, mais aussi d'une réflexion sur les violences qu'on subit et comment se défendre avec l'autodéfense féministe. Et aussi une question qui me travaille beaucoup en ce moment, qui est celle de l'organisation sociale qui nous assigne à certaines tâches plutôt qu'à d'autres. Et comment, en fait, il y a toute une partie du travail de soins dans la société qui est assumée principalement par les femmes et personnes minorisées de genre. Et en fait... Et qui est essentiel au fonctionnement de la société. Et je pense que par l'autogynécologie, comme par d'autres méthodes, on peut reprendre une partie du territoire dont on nous prive et qui est une façon d'affirmer un « je » puis un « nous » puissant dans la société. Donc pour moi, cette pratique-là, je sais que je la défends et je suis convaincue qu'il faudrait que ces ateliers soient accessibles au plus grand nombre avec des moyens et des moyens politiques pour justement que ce simple geste-là devienne banal. Le simple geste de pouvoir regarder son sexe, de pouvoir, si on a envie, apprendre à insérer soi-même un spéculum et regarder son col de l'utérus. Qui peut dire que... qui peut avoir vu déjà son col de l'utérus alors que c'est... que voilà, c'est tellement chouette de le voir. Moi, c'est vrai qu'avant de le faire, j'avais l'impression que c'était à la fois l'infiniment grand, l'infiniment petit. Enfin, aucune idée de la distance, de la taille. Et en fait, le fait de pouvoir... se rendre compte de ces parties-là de soi-même, ça participe au sentiment d'intégrité physique. C'est pas obligatoire, mais c'est tout un cheminement qui peut faire qu'on peut, voilà, enfin affirmer un jeu et un nous et faire valoir nos intérêts dans cette société.
Oui, je suis aussi convaincue, Nina. D'ailleurs, tu dans le film We Are Coming, qui est un autre film plus récent, vous avez aussi organisé des groupes de parole. Vous avez fait aussi de l'autogynéco. Et justement, quel est pour toi le lien entre ces deux pratiques?
C'est créer un espace à soi dans lequel il est possible de déposer les vécus sans craindre le regard extérieur et sans projeter un jugement sur nous-mêmes. En fait, les groupes de parole en mixité choisie, c'est pour moi un des outils les plus émancipateurs parce que avant d'y participer, j'étais persuadée que ça ne me servirait à rien, que ça va, qu'il n'y a pas besoin forcément de discuter entre nous ou sans les hommes cisgenres. Et que en fait, la première fois que je me suis retrouvée dans cet espace, j'ai découvert que j'y étais une autre personne, qu'il y avait un poids social qui disparaissait, que je parlais beaucoup plus librement et je me suis rendue compte aussi de la persistance des rapports sociaux de genre qui restent dans tous les autres espaces de la vie. Donc c'est aussi une autre forme de prise de conscience de son intégrité de son intégrité quoi. Donc pour moi toutes ces pratiques là qui sont développées par les féministes mais aussi qui existent depuis finalement des siècles et des millénaires, le fait de se réunir entre personnes qui partagent une même condition pour tracer les pistes de ce dont on a besoin et de notre émancipation, c'est hyper important et voilà et à renforcer comme pratique et qui persiste, qui sont des formes de résistance quotidienne souvent peu visibilisées et essentielles quoi.
Et dans We Are Coming, c'est aussi et surtout un film qui parle de plaisir. En quoi l'appropriation des savoirs sur ton corps permet de mieux comprendre comment fonctionnait la libido, le plaisir féminin?
Alors c'est vrai que nous, dans We Are Coming, la question de départ qui est pourquoi c'est si difficile d'avoir du plaisir dans les rapports sexuels, pourquoi il y a des enquêtes qui montrent qu'il y a un écart encore très fort, notamment dans les relations hétérosexuelles entre le plaisir des hommes et des femmes. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette question-là rejoignait en fait toute forme d'inégalité et que pour résoudre ce plaisir-là, il fallait peut-être passer par un autre plaisir qui était celui de la lutte collective. Et c'est ça que raconte We Are Coming, c'est comment cette lutte-là apporte un plaisir qu'on n'imaginait pas.
Et justement, tout à l'heure, tu as parlé de visibilisation, et en effet, nous, en tout cas, on a eu un peu de mal à trouver des ressources ou des collectifs même qui pratiquent l'autogynéco. Donc, on voulait te demander si tu as des ressources nous parler un peu de la visibilité de ces collectifs qui la pratiquent aujourd'hui.
C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des collectifs parfois informels, parfois mouvants. Il y avait le collectif Les Flux à Paris qui a beaucoup organisé des ateliers. Je sais qu'à Montpellier récemment, il y a eu un week-end où il y a eu un atelier d'autogynécologie. Mais c'est beaucoup par le bouche à oreille, c'est beaucoup des choses aussi qui se font de façon informelle. Je sais que dans les plannings familiaux, il y a le film justement Anatomie Autonomie qui va être à disposition pour tous les plannings familiaux pour encourager la pratique, la partager, peut-être la désacraliser un peu. Et en fait, comment être au courant, c'est beaucoup par réseau, mais aussi, je pense que le plus important, c'est de se dire que c'est possible de l'organiser soi où qu'on soit, en fait, de renforcer la pratique de terrain et se dire, voilà, si nous, on a envie, bah, effectivement, il y a notre corps nous-mêmes qui donne des pistes. On peut se tourner vers le planning familial pour leur demander s'il y a d'autres ressources et organiser les choses dont on a besoin à partir de là où on est. C'est la façon la plus belle d'arriver à ça parce qu'en fait, enfin, c'est pas étonnant qu'on trouve pas, je veux dire, il y a aucun financement public pour ça, c'est une pratique qui est marginalisée, même encore dans les écoles de médecine, alors que ça devrait y être intégré, c'est mis sous couvert la plupart du temps. Donc c'est vraiment une pratique de résistance informelle et qui demande de dépasser plein de prérequis, d'oser se réunir, d'oser se dire qu'on va en faire un sujet légitime. Et la forme de résistance qui a le plus existé, justement, c'est de s'y mettre soi-même, en fait. Je crois que c'est toute l'histoire du collectif de Boston aussi, hein, quand elles ont commencé à écrire Our Bodies Ourselves, c'était vraiment on se met à 10 au coin d'une table et on parle de nos vécus. Et voilà, il suffit d'être 4, 5 au coin d'une table pour se lancer sur ce chemin-là.
Justement, il suffit d'être autour d'une table. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres conseils à nous donner ou à donner à des auditeuristes qui voudraient mettre en place des ateliers d'autogynéco?
Oui, non, je pense vraiment que le mieux, c'est à la fois contacter le planning familial de la région, que si le planning ne le fait pas, ils seront et elles seront indiquées peut-être d'autres plannings qui participent. Et puis, vraiment, le chapitre sur l'autogynécologie dans notre corps nous-mêmes décrit ce qu'on peut mettre en place soi-même. Et après, il y a un film qui s'appelle Ma télégravitante, où on voit un collectif qui s'y attelle d'un coup comme ça presque. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes façons d'aborder. Ça peut être de façon comme ça, et puis ça peut être en faisant venir une animatrice ou une animatrice formée qui va pouvoir justement accompagner l'exploration, quoi. Donc ça, je sais que, par exemple, c'était possible avec le planning familial de Marseille. Nous, à Montpellier, on a organisé tout un week-end où on demandait à des intervenantes du planning de Marseille de venir animer un atelier d'autogynécologie sur 2 jours.
Merci beaucoup, Nina.
Ok, merci.
Est-ce que des personnes autour de la table auraient des questions ou des choses à ajouter?
Non. Pas forcément, non, merci, bon. Nina.
Mais avec plaisir.
Oui, merci, merci de tes réponses. Et puis, peut-être qu'on t'invitera au planning familial de Millau. Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir.
Que tu reviendras.
Oui. Ça me ferait plaisir de vous revoir.
Merci. À bientôt.
Allez, merci.
Je pense qu'il est l'heure de passer à un peu de musique, Maggie.
Et oui, et pour rester dans le thème, on écoute Mycose du groupe La Femme. Donc c'est une musique que j'ai choisie pour lever le tabou sur les symptômes des femmes qui sont pas pris au sérieux ou perçues comme sales, les mycoses.
Je t'en prie, mycose, tu m'agaces.
de retour dans le studio de Radio Larzac. Nous sommes toujours avec Chloé, Charlotte, Magali, Manon, Estelle et Cindy, Sophia et moi-même Maggie, pour continuer de parler de l'autogynéco en collectif et de notre propre expérience. Nous avons monté des ateliers au planning familial de Millau. À la suite de ces ateliers, on a décidé de les nommer les clitoseries. Voilà, bingo. Et de les ouvrir, nous en parlerons à la fin. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, on a beaucoup questionné ce mot autogynécologie. Alors justement, pour commencer ce tour de parole, comment vous définissez l'autogynécologie ?
Pour moi, c'est des échanges, déjà, teintés de sororité, de bienveillance et sans aucun jugement. C'est très important de dire ça. Il y a des silences parfois aussi, et on les accueille. Et j'avais vraiment envie de citer les mots de Charlotte de lundi, si tu me le permets, Charlotte. Charlotte a décrit les ateliers d'autogynéco comme des moments, comme un hammam. Et je me suis dit que c'était vraiment ça, un soin partagé ensemble par des mots et par notre alliance.
Merci Manon.
Alors pour moi, l'autogynécologie, avant de le faire, c'était vraiment quelque chose de très médical. C'était on va s'apprendre à mettre un spéculum et à regarder nos cols et puis ça va s'arrêter là. Donc c'était voilà, technique. Et en fait, j'ai découvert que y avait l'autogynécologie et puis il y avait tout ce qui se passait aussi dans le groupe. Cet espace très bienveillant, cet espace de liberté de parole où on n'a pas à se battre, juste tout ce qu'on dit est juste et à sa place. Et du coup, c'est devenu des moments chouettes. Et puis, ça impacte aussi toute la vie. Ça donne de la force et de la fierté.
Merci, Charlotte.
Maggie, toi, tu voulais aussi parler de ça.
Je voulais vous dire aussi que pour moi, l'autogynécologie, c'est un espace de partage de savoir et de connaissances, d'expérience et aussi d'auto-observation. Pour aller rencontrer et redécouvrir en fait son corps, donc pour parler en groupe de son corps, mais c'est aussi une démarche de prévention sur ma santé. Il y a aussi une approche, moi je le verrais aussi comme ça, une approche qui me permet d'être actrice en fait de mon corps et de ma santé. Voilà, après je pense que je pourrais en dire d'autres, reprendre le pouvoir sur des connaissances réservées aux médecins. Voilà, je m'arrête là.
Moi c'est vrai que comme Charlotte, je le voyais un petit peu comme des ateliers où on verrait plutôt le côté technique et ce que j'y ai trouvé, c'est vraiment une libération de la parole. Je pensais qu'avec les amis ça se faisait simplement, mais finalement de se retrouver dans ce cadre où on vient pour ça, où on sait qu'on a posé un cadre rassurant, où on sait qu'on ne sera pas jugé, qu'on peut ne rien dire aussi, si on veut rien dire par moment. Et ça, j'ai trouvé ça très libérateur, effectivement.
Et oui, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Estelle, parce qu'en effet, avant le premier atelier, moi, j'appréhendais quand même ce moment de se mettre à nu dans les sens du terme, à la fois figuré et à la fois le fait de se montrer, même si il faut dire aussi qu'on a aménagé des espaces pour pouvoir le faire en collectif, mais avec soi-même, juste. Et finalement, c'était tellement naturel parce qu'on a posé vraiment un cadre. On a passé du temps à discuter sur ce qu'on voulait faire et sur. On s'est donné des règles, en fait. Et c'était vraiment naturel. Et il y avait cette notion de groupe et de partage qui était juste incroyable à vivre. Et voilà, un grand lien, en fait, entre nous qui s'est formé.
Merci Sophia.
Et je pense que Magali voulait ajouter aussi.
Oui, c'est vrai que comme vous dites, au-delà de l'aspect juste, bon, on va voir un call, oui, alors ok. Il y a toutes nos expériences, nos mots qui finalement amènent plein de choses, plein de savoirs qui est aussi riche, si ce n'est plus que ce qu'on pourrait apprendre dans les livres médicaux. Donc il faudrait en effet que ces espaces soient possibles pour toutes les femmes pour pouvoir discuter et libérer la parole sur ce qui se passe dans son corps et on en apprendrait beaucoup, beaucoup plus. Et en effet, comme l'a dit Nina, il faudrait que ça soit intégré dans les apprentissages universitaires autour de la santé des femmes.
Alors, à l'initiative de ces ateliers, c'était ton idée, Cindy. Et donc, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu comment on a commencé de mettre en place ce parcours et aussi pourquoi tu as envie de nous proposer ça ?
Alors oui, j'ai réfléchi ça un petit peu tout à l'heure et en fait je crois que moi mon intérêt pour l'autogynécologie ça vient de la coupe menstruelle. C'est par là que je suis rentrée là-dedans parce que c'est un mode de protection menstruelle qui impose d'aller chercher un petit peu plus, savoir comment ça se passe si on a des fuites, donc on n'a pas trop le choix. Et après ça, j'ai des amis qui m'avaient offert pour un de mes anniversaires un livre qui s'appelle « Connais-toi toi-même » et le sous-titre c'est « Auto-exploration du sexe féminin » de Clarence Edgar-Rosa, j'espère que j'écorche pas son nom. Et donc du coup voilà, c'était aussi une première véritable approche de l'auto-gynécologie, de l'auto-exploration, du fait d'aller regarder comment on était faite à ce niveau-là, parce que c'est vrai, c'est quelque chose qui est tabou, qui est caché. Et je trouve que du coup, dans l'autogynécologie, il y a un aspect assez subversif, en fait, montrer ce qui est caché, en plus de le faire en groupe, alors que généralement, on n'a pas été éduqués, socialisés, nous, en tant que femmes, de faire ça, quoi, tout simplement. Donc je trouvais ça que c'était intéressant. Et en arrivant sur le Larzac il y a deux ans, presque jour pour jour, j'avais envie de participer à des ateliers comme ça, mais il n'y en avait pas. Et donc, du coup, j'ai commencé à être bénévole au planning familial de Mio. Et il se trouve que dans les orientations stratégiques des années en cours, il y a cette dimension de favoriser des groupes d'échange et favoriser aussi un aspect de démédicalisation de la santé des femmes. Et donc, du coup, ce qui rentre complètement dans le cadre des ateliers d'autogynécologie. Et donc, comme toute seule, c'est pas facile, mais en groupe, c'est beaucoup mieux, on s'est réunis avec des bénévoles. Pour certaines, ça a été l'occasion de devenir des bénévoles aussi, donc c'était super, ça a un peu renforcé l'équipe. Et ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est qu'on a vraiment co-construit ces ateliers. C'est quelque chose de très horizontal, de très collectif, que ce soit dans la manière de conduire les ateliers, que ce soit dans la manière de les penser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très riche et très agréable, je trouve, et qui est encore plus adapté à quelque chose de subversif, en fait. Le collectif, c'est un peu subversif, quoi. Donc, voilà.
Oui, en effet, j'ai beaucoup aimé ce que disait Nina par rapport aux espaces de résistance en groupe. Et c'est elle met des mots sur quelque chose qu'on a vécu toutes, je pense. Et alors, pour continuer cette discussion, on était curieuse de savoir... qu'est-ce que ces ateliers nous ont apporté à chacune? Qu'est-ce qu'on y a cherché et qu'est-ce qu'on y a trouvé, peut-être en étant surprise du résultat?
Alors moi, je peux prendre la parole sur ce sujet. C'est vrai que quand je suis arrivée aux ateliers d'autogynéco, j'avais pas mal de questionnements sur mon corps et sur mes fluides. Je me demandais pourquoi mes pertes blanches tachaient ma culotte. Je me demandais pourquoi ma libido était au top juste après avoir mes règles. Pourquoi mes poils pubiens étaient assez rêches. Enfin, et j'ai eu toutes ces réponses avec des personnes qui m'ont écoutée. Et ça, c'était très important parce que, comme tu disais tout à l'heure, Sophia ou Estelle, des amis, on en a, on en parle, mais... je ne sais pas si c'est la même écoute active que ce que je reçois quand je suis en autogynéco avec vous au planning familial. Voilà.
Qui veut prendre la parole?
Moi, je suis arrivée un peu comme soignante dans le groupe. Et je pense que c'était une posture pour me protéger aussi. Et de manière très bienveillante, il a été dit au début qu'il n'y avait pas une sachante, mais qu'on était toutes au même niveau. Et ça m'a beaucoup appris, en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de ne pas arriver en étant la sachante et juste d'arriver en tant que femme, en tant que personne. Du coup, j'ai pu découvrir qu'il y avait énormément de savoirs qui n'étaient pas appris en faculté de médecine, énormément d'expériences. J'ai pu aussi m'ouvrir à l'écoute, en fait, des différentes façons de vivre sa sexualité, le plaisir... Et de ne pas être dans un consensus comme on peut l'être entre amis. Là, c'était vraiment chacun disait son point de vue et dans un grand respect. Donc ça m'a énormément apporté. Et aussi, ça m'a apporté ma volonté d'être plus engagée et militante, parce que c'est vrai que je suis arrivée en me disant « je viens pour ça au planning », mais je n'avais pas du tout l'intention d'en faire plus. Je ne pensais pas avoir le temps. Et en fait, tu deviens bénévole, tu rencontres des personnes super, tu t'engages et tu as envie d'en faire toujours plus et de faire découvrir ça à toujours plus de monde, parce que c'est essentiel et très important et très, très libérateur aussi. Voilà, ça m'a apporté tout ça.
Oui, moi, je veux bien prendre la suite. Ouais, j'ai trouvé vraiment un réel partage humain avec des personnes de tout horizon, en fait, et surtout des générations différentes. Parce que c'est vrai que dans le groupe, en fait, ça commence à 20 ans et ça va jusqu'à 60. Donc ça aussi, ça a été très, très riche et très partageur, en fait, aussi des connaissances et des savoirs de chacune, quoi. Et là même, moi, je retrouve, quand vous dites qu'il y a une écoute très bienveillante qui est là, je me sens complètement entendue et sans jugement, sans commentaire, sans rien dire, en fait. Juste la parole est libérée. Et je trouve que, voilà, à travers ces témoignages aussi qu'on a pu, en fait, se dire, ça m'a apporté du soutien. Ça m'a apporté aussi de la compréhension et de l'envie de continuer. Comme elle dit Nina, de la pratique de résistance.
Pour ma part, il y avait aussi, dans ce que ça m'apporte et de ce que j'y cherche, c'était de retrouver un rapport au corps et le lier avec mon engagement féminisme, étant donné que, en tout cas dans le féminisme français un peu mainstream, le corps, c'est pas vraiment c'est pas un sujet qui a été beaucoup abordé, puisque c'est ramené à l'essentialisation, etc. Donc le fait de naturaliser des comportements et pas de les expliquer par une éducation, par une socialisation, etc. Et que c'était quelque chose qui me manquait, je trouvais, dans le féminisme que je vivais avant, avant de pouvoir mettre en place ces ateliers. Et du coup, je trouvais que ces ateliers d'autogynécologie, c'était un petit peu aussi le moyen de repasser par le corps, qui est source de domination, etc., mais qui est quand même là, donc c'est important de le prendre en compte et de dépasser un petit peu cette opposition.
En effet, je peux rebondir sur ce que vous avez dit un peu toutes. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est créé entre nous, vraiment de sororité, parce que on a déposé aussi des expériences un peu difficiles qu'on a vécues, mais aussi des choses très anodines du quotidien qui pourtant sont toujours tues dans la vie de tous les jours. Et moi, ce que j'ai aussi compris en partageant ça, c'est qu'il y a des expériences qu'on vit toutes, mais on les vit toutes seules, alors que en fait, il suffirait d'en parler juste pour se sentir un peu plus à l'aise avec ça et de se dire « Ah, en fait, je suis rassurée parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. » Et juste ça, ça fait vraiment du bien. Et il y a aussi une confiance qui se développe par le fait de savoir que si jamais il y a quelque chose que j'ai envie de poser, il y a cet espace-là qui est fait pour ça. Et du coup, ça m'a donné de la confiance dans le groupe, mais aussi finalement en soi-même et en son corps. Voilà pour ma part.
Moi aussi, je voulais rebondir, comme l'a dit un petit peu Charlotte. J'ai trouvé très beau que toutes nos paroles soient égales, qu'il n'y ait pas quelques personnes qui soient là en tant que sachant, qu'on ait toutes un savoir qui est égal. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a aussi encore plus donné envie de développer ces ateliers, que ce soit quelque chose que toutes les femmes puissent bénéficier et que non, il n'y ait plus de femmes qui soient déconnectées de cette partie de leur corps, de leur intimité, de leur vie de femme, et qu'il n'y ait plus de femmes qui s'allongent sur une table de gynéco en étant toutes nues, en regardant au plafond, en attendant qu'on leur dise que tout va bien ou pas. Et ça, je trouve ça terrible. Donc j'espère qu'on peut toutes se dire non, en fait, je pose mes questions, je sais ce qui va pas, et j'ai confiance aussi dans ce que je sais. Donc voilà, ça serait l'objectif ultime. Peut-être qu'on n'y arrivera pas de suite, parce que c'est dur de toucher tout le monde, mais ça serait chouette.
Oui, justement, par rapport à ça, on peut dire aussi que on pourrait parler d'une fin, presque d'un nouveau début pour ces ateliers, parce qu'à la fois, ce groupe qu'on a constitué va continuer de se réunir et de se former, mais à la fois, l'intention est celle d'ouvrir et d'organiser d'autres groupes d'autogynéco, justement les clitoseries. Oui. Alors, est-ce qu'on peut déjà en dire quelque chose ou
On peut en dire que on va faire une réunion d'information bientôt. Je ne sais pas encore à quelle date, mais que ça arrivera dans pas très longtemps. que si vous voulez connaître cette date, il faut rester en lien avec le planning familial de Mio, puisque c'est là qu'on aura l'information.
Et peut-être en lien avec l'émission L'Actuelle. Je pense que l'info, elle sera diffusée ici aussi.
Bien sûr, on va la faire passer.
Et qu'on a envie de faire en sorte que ces ateliers soient au plus proche des besoins des personnes qui seront intéressées. Et donc cette réunion d'information, elle a un peu pour objectif de proposer ce qu'on pourrait faire et de voir ce qui résonne chez les personnes qui sont intéressées pour après mettre en place, toujours avec un aspect quand même collaboratif. Voilà.
Tout à fait. Eh bien, merci à toutes déjà. Ce n'est pas encore tout à fait fini l'émission, mais presque. Alors, avant de conclure, Charlotte, tu étais, quand on a préparé cette émission, t'as dit, eh bien, c'est intéressant de voir s'il y a de l'autogynéco ailleurs dans le monde. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a encore des choses qu'on peut ajouter.
Oui. Alors, en faisant mes recherches et en tapant simplement autogynécologie dans le monde, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, Nina, tout à l'heure, a répondu un peu à cette question, au fait que c'était assez invisibilisé. Mais on peut voir que dans l'histoire, en fait, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Comme en parle Christina Samsung dans sa thèse, c'est une sage-femme qui a fait une thèse sur l'autogynécologie. Elle décrit qu'en fait, dès l'Antiquité, il y avait des rassemblements de femmes, notamment au Moyen-Orient, en Amérique latine et au Maghreb. C'était très répandu, banal, et ça pouvait être pour tous les moments un petit peu féminins, on va dire. Donc l'apparition des règles, la puberté, le mariage, la grossesse, l'accouchement, jusqu'à la ménopause et au décès. C'est des moments dans ces cultures où, sous différentes formes, qui peuvent être parfois la danse de la lune, des groupes de parole, ou aussi se rassembler au hammam, comme on parlait tout à l'heure, des moments où les femmes se rassemblent et qu'elles parlent entre elles, en fait, très simplement. Donc il ne va pas forcément y avoir de l'autogynécologie, mais il peut y avoir des moments d'intimité et d'approche du corps. Après, sur l'autogynécologie en soi, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec Chloé, ça s'est développé dans les années 71, en fait, avec le livre Our Body, Ourselves, qui provient du livre Les femmes et leur corps. C'était un cours sur l'autogynécologie et il a été traduit donc, en 31 langues. Et donc, on peut voir qu'il y a plein de pays dans lesquels les femmes se sont intéressées à l'autogynécologie. Mais voilà, j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos que ça pour voir actuellement le nombre de groupes d'autogynécologie dans différentes cultures, comment ça se passe. On voit qu'en France, ça émerge quand même petit à petit un peu partout, mais c'est toujours la question de comment ça se passe autre part. Voilà.
Merci Charlotte. En effet, je pense que c'est aussi des groupes qui restaient et qui restent en marge, comme disait Nina tout à l'heure. Mais en tous les cas, ça émerge un petit peu.
Manon, tu voudrais nous partager des vœux, ouais, que tu as écrits.
Des vœux, pas des vieux. Oui, j'aimerais souhaiter quelques vœux aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, aux femmes du monde, enfin à toutes celles qui veulent accueillir mes vœux. C'est le vœu de faire la paix avec ton intimité, de te réconcilier avec ton corps, de comprendre les fluides qui sortent de ce dernier, de commencer à les aimer finalement, de ne pas rougir de te masturber ou de ne pas te masturber, de devenir maman ou pas, de faire l'amour comme tu ne l'as jamais fait, d'assumer tes vergetures, tes cicatrices, toutes les zones que tu trouves molles dans ton corps, d'aimer porter des jupes courtes, d'avoir des ongles couleur lit de vin, sniffer le doudou de ton enfant avant de partir boire des ginto que tu regretteras le lendemain, de pleurer sous la douche, de danser dans ton salon, de lutter tous les jours contre les personnes misogynes et sexistes. Tu sais, ces personnes qui te laissent croire que parce que tu es une femme, tu es moins intelligente. D'être enseignante, ingénieure, artiste, chef d'entreprise, mère au foyer, fleuriste, voyageuse, d'incarner celle que tu souhaites être, de ne laisser personne te dire que les meilleurs moments de ta vie sont derrière toi et d'aller chercher les trésors qui dorment en toi et d'en prendre soin.
Bravo, wow,
merci Manon.
C'est beau Manon. Merci, Manon. Mais il n'y a pas que des vœux, il y a aussi de la poésie. C'est ça. Je vous laisse le dire.
Alors avec Cindy, on va vous lire un poème qu'on a écrit toutes les deux. C'est parti. Éjaculation.
Inégalité.
Orgasme.
Politique.
Jouir.
Joie.
Sentir, vibrer, toucher, éclater.
Vide.
Passion, force, douceur.
Cohésion.
Corps qui se mêle.
Sens.
Caresse, complicité.
Sororité.
Douce flamme.
Ensemble.
Merci beaucoup les filles. C'est vrai que ces ateliers, c'était aussi un espace de poésie et c'était trop bien. Eh bien, là maintenant, c'est vraiment la fin. Donc, il ne me reste plus que vous remercier toutes.
Oui, donc, merci à tout le monde aussi.
Chloé, Charlotte, Magali, Maggie, Manon, Estelle et Cindy. Vraiment, merci d'avoir partagé ce temps à la radio et avec les auditeurices. Merci à Nina Faure qui nous a répondu à nos questions. Merci beaucoup aux deux Nico à la technique qui ont géré tous ces micros ouverts.
Oui, et puis moi je veux faire un petit clin d'œil aussi à Carole.
Et à Nicole aussi.
Carole et Nicole.
Ouais, c'est ça, qui ont vécu ces ateliers avec nous et qui nous pensent de loin, qui pensent à nous. Et nous, on pense à elles, très fort.
On pense à elles.
Eh bien, cette émission est rediffusée vendredi à 19h. Elle sera bientôt mise en ligne sur notre site radiolarzac.org. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet.
Au revoir la clitoserie.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Ciao, ciao.